15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être tous les jours de 15h à 16h. Une émission dans laquelle on essaye de vous faire du bien tout en vous informant, bien évidemment. Pour ce faire, il est d'habitude dans ce studio à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Alors, vous êtes là en ligne, Jimmy, avec nous aujourd'hui, par contre, par téléphone. Alors, pas de panique hein, pour ceux qui nous écoutent, vous avez juste un petit contretemps. Ce matin, vous avez eu un contretemps en consultation, c'est ça? Bonjour.
Oui, bonjour Mélanie. Écoutez, c'est vrai que la dernière visite à domicile m'a pris un peu plus de temps et malheureusement, j'ai pas pu rejoindre le studio à temps, mais pas de panique, je reste avec vous et je serai là pour répondre aux questions.
Allez, ok, vous restez en ligne, hein, Jimmy. Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la thyroïde, petite glande située à la base de notre cou. Elle est assez petite et pourtant, elle a de grandes fonctions dans notre organisme. On va vous expliquer tout ça. Parfois, c'est en général quand on découvre son importance, quand elle se met mal à fonctionner, trop ou pas assez. Parfois, des nodules, voire une tumeur se développe dessus, mais tout ça se traite, heureusement. Nous ferons le point avec notre invité, l'endocrinologue Emmanuel Lecornet-Socol. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler de l'extinction de voix. Ça peut tous nous arriver un jour, après un concert par exemple, ou un coup de froid. Que se passe-t-il réellement sur nos cordes vocales et comment régler ça vite? On vous détaillera tout ça. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de l'androgynie. C'est quoi précisément quelqu'un d'androgyne et cela a-t-il forcément un impact sur la vie sexuelle? Catherine fera le point. Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, comme tous les jours, un point sur l'épidémie de coronavirus en France. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé, 1784 cas confirmés. On déplore à ce jour également 33 décès. Alors, avec le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter en France, les plus âgés et les personnes fragiles s'inquiètent. Notamment, on a reçu pas mal de questions dans l'émission de personnes actuellement atteintes par un cancer ou même en rémission. Ils s'interrogent à juste titre sur leur risque vis-à-vis de ce virus. Pour leur répondre, justement, Benjamin Lévesque a joint le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Il fait le point, on l'écoute.
Chez les personnes dont le traitement a été arrêté et qui ne présentent pas de signes de maladie évolutive, non, ils n'ont pas de risque particulier et ils peuvent être assimilés à n'importe quelle autre personne. Si leur âge est avancé, ils ont le risque habituel des personnes dont l'âge est relativement avancé. Si les personnes, en revanche, sont en cours de traitement, beaucoup de ces traitements sont susceptibles d'entraîner une diminution du potentiel immunitaire, des défenses immunitaires, et évidemment, à ce titre, c'est un facteur de risque et elles doivent être considérées comme fragiles.
Alors, autre question justement pour les gens qui sont actuellement en traitement contre un cancer, quels sont les bons gestes au quotidien pour se protéger, pour éviter d'être contaminé par le coronavirus? On retrouve le professeur Axel Kahn.
Nous leur conseillons, comme à n'importe quelle autre personne fragile, de limiter strictement les visites, de limiter strictement les sorties. Pas de bise, pas de poignée de main, une distance suffisante. Si la personne qui vient les voir se sent un peu patraque, eh bien dans ce cas-là, elle vient avec un masque. Pour ce qui est maintenant de la chimiothérapie, l'équipe de soins qui la prend en charge est parfaitement au courant des risques et va essayer de minimiser les risques dans le transport lui-même, en évitant évidemment qu'elle prenne des transports en commun, veillant à ce qu'elle dispose d'un transport sanitaire idoine, également dans le centre de soins où maintenant les précautions sont véritablement prises pour éviter que des personnes potentiellement infectées puissent être au contact des personnes pendant qu'elles reçoivent leur chimiothérapie.
Voilà pour les précautions en cette période d'épidémie pour les patients qui souffrent de cancer. À présent, Sans Rendez-vous reprend son cours habituel. Dans cette émission, on répond à toutes vos questions et donc on écoute celle de Camille.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je me permets de vous appeler car j'aimerais savoir si le chocolat est bon pour le cœur. Est-ce que c'est vrai? Comment ça s'explique? Est-ce que ça vaut pour tous les chocolats? J'ai lu ça un peu partout et j'aimerais avoir une vraie confirmation. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.
Alors, le chocolat est-il réellement bon pour notre santé et surtout pour notre cœur? Jimmy, grand spécialiste du sujet, vous êtes en ligne avec nous. Enfin non, surtout vous êtes grand amateur de chocolat, je crois. Il suffit de vous regarder. Enfin là, on ne vous voit pas dans le studio, mais non, je plaisante évidemment. Alors, plus sérieusement, qu'en est-il du point de vue cardiovasculaire, Jimmy?
Eh bien, pour vous répondre, je n'ai pas interrogé Cyril Lignac, votre pâtissier préféré, mais j'ai été voir ce que disait la Fédération française de cardiologie. Oui, bonne nouvelle, manger un ou deux morceaux de chocolat noir quotidiennement peut être bon pour le cœur. Alors, c'est uniquement lié au fait que on a de la poudre de cacao qui est très riche en flavonoïdes. Les flavonoïdes sont des antioxydants et ces derniers diminuent la formation du mauvais cholestérol et des cailloux qui peuvent boucher les artères et qui peuvent ensuite entraîner l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Et ça permet aussi de limiter l'augmentation de la pression artérielle.
D'accord. Alors attention par contre à pas confondre cacao et chocolat, hein.
Bah oui, parce que dans le chocolat, il y a bien de la poudre de cacao, mais il y a aussi du beurre de cacao qui est gras et du sucre en quantité non négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chocolat noir contient au moins 30% de poudre de cacao, le chocolat au lait c'est 20% et le chocolat en blanc n'en contient pas du tout.
Mon préféré, le blanc.
Bah, c'est celui qu'on préfère, mais c'est celui qui est le moins bon nutritionnellement parlant. Du coup, il est préférable de se faire plaisir avec un ou deux carrés de chocolat par jour, mais uniquement s'il est noir.
Et pour terminer, c'est vrai que le chocolat, ça a aussi un effet anti-fatigue ou pas ?
Alors, certains experts en nutrition disent qu'effectivement, que le chocolat a un effet anti-fatigue et anti-déprime, car le cacao qu'il contient est aussi riche en magnésium. 100 grammes de chocolat contient environ 112 mg de magnésium. Et donc, c'est vrai qu'un manque de magnésium, c'est prouvé, ça peut entraîner un peu une baisse d'énergie, une sensation d'épuisement, de fatigue et de fatigabilité à l'effort. D'autant plus que la population est souvent carencée. Donc, là, ça peut marcher. Mais encore une fois, c'est un ou deux carrés maximum par jour et uniquement du chocolat noir.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Camille, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on accueillera notre invité du jour, l'endocrinologue Emmanuel Lecornet-Socol, avec qui nous allons faire le point sur la thyroïde et bien sûr, sur les problèmes de santé les plus fréquents qu'elle peut nous causer. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Et tout de suite, nous accueillons donc notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Emmanuel Lecornet-Socol. Elle est endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et l'auteur du livre « Et si c'était hormonal ?» chez Hachette Bien-être.
15h, 16h,
Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Lecornet.
Bonjour Mélanie.
Ravie de vous recevoir une nouvelle fois dans cette émission. Vous allez devenir une habituée, vous venez nous parler des hormones régulièrement. Et, enfin, vous êtes déjà venu nous parler des hormones en général. Aujourd'hui, on fait un point sur la thyroïde et on va parler des différents problèmes autour de la thyroïde, ce qu'elle peut nous causer, en tout cas cette thyroïde. D'abord, on va quand même revenir sur ce qu'elle est précisément, cette glande. Elle ressemble à quoi? Elle est où? Parce que finalement, quand on n'a pas eu de soucis, parfois on ne sait même pas exactement. Hein.
Alors, tout le monde a une thyroïde. Parfois, j'ai des patients qui viennent en consultation me dire « Ah docteur, j'ai la thyroïde », mais heureusement, tout le monde a une thyroïde qui est à la base du cou, derrière le nœud de cravate pour nos auditeurs. Je pense que c'est la meilleure manière d'expliquer où elle est. Elle mesure...
On la sent pas au toucher, hein,
non,
on est d'accord.
Non, on la sent pas. Elle mesure à peu près 4-5 cm de hauteur sur 4-5 cm de large. Donc elle fait à peu près 20...
C'est pas si petit que ça, hein, ouais.
Non, elle fait à peu près entre 10 et 20 cm cubes selon les gens.
D'accord.
Donc son rôle, c'est vraiment une glande, c'est-à-dire qu'elle fabrique des hormones. Donc je rappelle que les hormones, ce sont des messagers. Notre système hormonal, c'est un merveilleux système de communication dans le corps. Et donc ces hormones thyroïdiennes, elles vont aller agir sur plein d'endroits dans le corps pour amener des messages et entraîner des réponses sur certains organes.
Elle a une forme de papillon, je crois, hein, la thyroïde, c'est ça ?
On dit qu'elle a deux lobes, comme les deux ailes du papillon, et au milieu, un isthme, comme le corps du papillon, qui passe au-dessus de la trachée. Et donc on peut la sentir. Pour certains, même on peut la voir lorsqu'elle est un peu grosse parfois. Et lorsqu'elle est un peu grosse, c'est ça qu'on appelle le goitre dans notre vocabulaire médical.
Jimmy, vous êtes en ligne avec nous aujourd'hui, hein, je précise. Exactement. Vous avez un petit problème en consultation, une dernier patient un peu compliqué. Vous n'avez pas eu le temps de rejoindre le studio, mais vous êtes avec nous.
Exactement. Et d'ailleurs, vous avez dit qu'elle régule le fonctionnement de notre corps, mais elle sert à réguler quoi précisément ? C'est-à-dire la tension, le tube digestif, parce que c'est un peu une centrale nucléaire en fait.
Oui, elle régule le métabolisme de notre corps, c'est-à-dire la façon dont le corps va utiliser l'énergie. Ainsi, elle va, par exemple, contrôler le poids. Si vous avez beaucoup d'hormones thyroïdiennes, le métabolisme va s'accélérer, vous allez avoir tendance à perdre du poids. Et au contraire, si vous n'en avez pas assez, tout va être au ralenti et vous allez tendance à en prendre. Et elle va agir comme ça sur plusieurs organes. Par exemple, sur le tube digestif, elle régule le transit. Donc, quand il y a beaucoup d'hormones, le transit est accéléré. Et au contraire, quand il n'y en a pas assez, il est ralenti.
Et je crois que vous dites, on en a tous, hommes et femmes, une thyroïde. Mais d'ailleurs, il y a une maladie, je crois, de la thyroïde. Enfin, quelque chose qui est dépisté dès la naissance. Parce qu'il peut y avoir de manière une malformation, hein, c'est ça ?
Oui, très rarement, il peut y avoir une hypothyroïdie congénitale. C'est-à-dire une absence de thyroïde ou une thyroïde qui est tellement petite qu'elle n'arrive pas à fabriquer assez d'hormones ou alors elle est mal placée. Et dans ces cas-là, on va le dépister à la naissance, dans les premiers jours de vie. Vous savez, c'est cette petite prise de sang qu'on fait au bout du talon à tous les nouveau-nés avant de sortir de la maternité. Exactement. Et si jamais on dépiste cette hypothyroïdie, on va mettre en place tout de suite un traitement parce que ces hormones thyroïdiennes, elles sont essentielles pour la mise en place du cerveau chez l'enfant.
Ah oui, donc très important de savoir très tôt. Hein, ouais.
Chez le tout petit, si on manque d'hormones thyroïdiennes, ça peut entraîner même des retards mentaux. Et donc le fait aujourd'hui de pouvoir traiter dès la naissance ces enfants, eh ben, ça leur permet de mener une vie complètement normale grâce à un traitement très simple.
Jimmy, vous avez une question ?
Oui, j'ai l'impression de voir beaucoup de patients justement avec des problèmes de thyroïde. En France, ça représente combien de personnes à peu près ?
Alors c'est effectivement des maladies ultra fréquentes. Par exemple, on considère qu'il y a à peu près 3 millions de personnes traitées par des hormones thyroïdiennes en France. Il peut y avoir aussi des nodules, donc des boules dans la thyroïde. Et il y a à peu près, on dit qu'une femme sur deux après 50 ans a des nodules dans la thyroïde.
Donc on arrive peut-être encore à 4 millions, enfin c'est énorme.
C'est vraiment des pathologies, c'est des pathologies du quotidien.
Mais c'est, les nodules, je crois que c'est quand même quelque chose qui est plus, vous dites les femmes, c'est que les femmes les nodules ?
Non, alors en fait les maladies de la thyroïde de manière générale sont plus fréquentes chez les femmes, on dit environ 3 femmes pour un homme.
On connaît tous des femmes autour de nous qui ont des problèmes de thyroïde, enfin je crois que ça il suffit de s'interroger autour dans son entourage, on en trouve toujours une. Hein. Et pas souvent des hommes c'est vrai, mais il y en a, vous en voyez
en
consultation.
En fait il y en a. Alors souvent, effectivement, il y a un peu de retard diagnostique parce qu'on y pense moins. Autant les femmes, on va dire « Ah, c'est peut-être sa thyroïde », mais les hommes, on va aller chercher moins souvent.
Et vous, dans votre consultation, les hommes, ça représente quelle part de
C'est à peu près ça aussi. Un quart d'hommes, trois quarts de femmes.
Et ils ont quel âge, vos patients ? Parce que la thyroïde, bon, on a compris, il peut y avoir des problèmes dès l'enfance, même si c'est rare. Mais une fois adulte, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus...
Oui, alors le pic de fréquence, c'est vraiment la cinquantaine, clairement. Mais chez les femmes, notamment pour les dysfonctionnements, il y a également un autre pic vers l'âge de 20 ans, 25 ans, où il y en a un peu plus fréquemment. Donc soit des hypos, des hyperthyroïdies, des insuffisances ou des excès de fonctionnement. Donc là aussi, c'est des choses qu'on dépiste beaucoup en France parce qu'on a des examens qui sont très simples, des prises de sang, des échographies qu'on peut faire très facilement, qui ne coûtent pas très cher.
Merci beaucoup docteur Le Cornet. Nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Bien sûr, vous restez avec nous.
Europe.
Dans un instant, on passe donc au dysfonctionnement de cette glande, mais on va commencer par un problème assez fréquent, surtout chez les femmes, on vient d'en parler, l'apparition de nodules sur la thyroïde. Vous verrez que c'est pas forcément, on n'est pas forcément obligé d'intervenir d'ailleurs pour les enlever. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et notre invité, c'est vous, docteur Emmanuel Le Cornet-Sokol. Vous êtes endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, docteur Le Cornet, on fait le point aujourd'hui avec vous sur la thyroïde, sur les petits et les gros soucis qu'elle peut nous causer. L'un des plus fréquents, ce sont les nodules. C'est quoi les nodules ?
Les nodules, c'est des boules dans la thyroïde. Donc par exemple, vous mettez de la crème le matin ou pour les messieurs, vous vous rasez, vous sentez qu'il y a comme quelque chose qui est gonflé au niveau du cou.
C'est des petites tumeurs ou pas ?
C'est exactement, c'est des petites tumeurs et pour la plupart, c'est des tumeurs bénignes. On peut les sentir à la palpation à partir de 1 cm, mais parfois ça peut même être plus gros, 2, 3, 4, 5.
J'allais vous demander justement, quand on a des nodules, vous dites bon, en se rasant ou en se touchant à la base du cou parce qu'on met de la crème, on peut sentir quelque chose, mais il y a d'autres symptômes, je ne sais pas, on peut avoir du mal à avaler, enfin, puisque ça se passe pas loin de la gorge, tout ça. Est-ce qu'il y a une autre symptomatologie ?
Oui, quand c'est très gros, parfois ça peut faire mal, ça peut appuyer. On peut être essoufflé en marchant ou en montant des escaliers, ou alors ressentir une gêne quand on avale. Donc c'est parfois aussi l'une des raisons à l'occasion desquelles on découvre. Et puis le plus souvent, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et c'est parce qu'on a fait un autre examen, un scanner, une échographie pour autre chose, qu'on se rend compte qu'on a des nodules. Ou alors quand dans sa famille, on sait qu'on a déjà des nodules et du coup, on veut savoir soi-même si on en a.
Docteur Jimmy Mohamed ?
Et effectivement, souvent, c'est des diagnostics un peu fortuits, par hasard. Sur une échographie, on tombe sur un ou plusieurs nodules et parfois même, on ne fait rien, on les surveille. Qui dit nodule ne veut pas forcément dire pathologie sous-jacente.
Oui, exactement. La plupart de ces nodules sont bénins. Parfois, ils peuvent un petit peu grossir, un petit peu diminuer de taille. Et en fait, vraiment, l'examen clé, c'est l'échographie. Actuellement, on a des échographies qui sont très très performantes, avec des experts souvent qui savent très bien analyser de manière fine ces nodules. Et en fonction de leurs caractéristiques, on peut arriver d'emblée à dire « Eh bien non, ce nodule n'est pas inquiétant, on fait juste faire une surveillance simple avec des échographies ». et c'est tout.
Et s'il est inquiétant, par contre, on traite et on fait quoi? Alors, on l'enlève, on essaie de s'en débarrasser quand même.
Alors, dans un premier temps, on va essayer de l'analyser de manière plus approfondie. Et pour ça, on peut faire une ponction. Donc, on prend une aiguille très très fine qu'on va mettre dans le nodule. Alors, c'est un peu douloureux, mais pas tant que ça. Et on va retirer des cellules qu'on va analyser au microscope. Et parfois, en fait, même quand le nodule il nous paraît pas très beau, en fait, ce nodule est bénin et on n'y touche pas. Par contre, si on a une inquiétude, des cellules suspectes ou des cellules cancéreuses, alors à ce moment-là, c'est forcément une opération qu'on va réaliser.
D'accord. Et donc l'opération, il y a plusieurs techniques. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps, mais on peut faire comment? On ouvre? Enfin, pas toujours d'ailleurs.
Alors, le plus souvent, la technique classique, c'est d'ouvrir à la base du cou sur 4-5 cm et de retirer la moitié ou toute la thyroïde en fonction des cas. Mais maintenant, on a des alternatives pour éviter d'avoir la cicatrice au niveau du cou. On peut passer sous l'aisselle. Donc ça, c'est une technique qui est bien au point, avec des robots. Et puis, il y a également des techniques toutes nouvelles où on peut passer derrière l'oreille ou dans la bouche aussi.
Ah, d'accord. Et là, il n'y a plus de cicatrice, quoi.
Exactement. Donc, il y a beaucoup d'avenir dans la chirurgie de la thyroïde, en tout cas.
Alors, parfois, malgré tout, ce nodule, il est cancéreux. On le découvre à la biopsie. Donc, c'est le cancer de la thyroïde. Là, il y a des symptômes. C'est un peu les mêmes au départ. Hein. C'est ça, si... enfin, quand on a mal à la... on a un nodule au départ.
On a un nodule, mais parfois, on ne peut rien sentir. Et alors, contrairement au cancer, habituellement, on dit « Ah, je suis fatiguée, j'ai maigri, je me sens pas bien ». Le plus souvent, ça ne donne aucun symptôme.
D'accord.
Et c'est vraiment à l'échographie qu'on va mettre en évidence. La chose aussi qu'on peut avoir, c'est un problème de voix, la voix qui est cassée. Ça aussi, ça doit attirer l'attention. Ou alors, parfois, si on a des ganglions dans le cou, des boules dans le cou, donc en dehors de la thyroïde, sur les côtés.
Il faut quand même rassurer nos auditeurs, ce cancer, on fera peut-être une émission spéciale dessus une autre fois, mais c'est un cancer de très bon pronostic, ça se traite. Hein.
Ça se traite très bien, il y a à peu près 10 000 cas par an, et dans plus de 80% des cas, on est guéri, et vraiment, il y a des taux de rémission très, 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 très élevés. Donc vraiment, on peut être rassuré, même avec ce diagnostic, on a une très bonne prise en charge à l'heure actuelle.
Docteur Le Cornet, nous allons poursuivre cet entretien juste après, bien sûr, on reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, nous passons aux deux dysfonctionnements les plus fréquents de notre thyroïde. Parfois, elle travaille trop, parfois pas assez. Ce sont l'hyper- et l'hypothyroïdie. Deux problèmes assez fréquents donc dans la population, mais pour lesquels on dispose de traitements. Heureusement, on va faire le point. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Emmanuel Le Cornet-Socol. Elle est endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Docteur Le Cornet, aujourd'hui avec vous, on parle de thyroïde. On va attaquer là sur les problèmes les plus fréquents de dysfonctionnement de la thyroïde, l'hypo et l'hyperthyroïdie. Mais avant, juste, vous vouliez juste dire un mot sur les nodules, parce que vous n'aviez pas parlé d'une technique qui sert aussi à les retirer, je crois, la thermoablation, c'est quoi?
Oui, alors c'est le fait de brûler des nodules. Donc parfois, on peut avoir un très gros nodule. Il est bénin, donc ce n'est pas un cancer, il n'est pas inquiétant, mais il nous gêne. Esthétiquement, où il fait mal. Et dans ces cas-là, on peut le brûler avec du laser, par exemple. On appelle ça la thermoablation. Ce sont des techniques qui sont faites désormais dans des centres de référence. Donc, il faut toujours avoir des experts qui prennent cette décision. Mais ça peut être une alternative pour éviter de se faire opérer.
Parfait. Alors, on va passer donc aux deux problèmes très fréquents de la thyroïde. Parfois, parfois c'est le dysfonctionnement, c'est qu'elle ne elle travaille pas assez, elle travaille en sous-régime, cette thyroïde. Et c'est donc l'hypothyroïdie. Expliquez-nous ce qui se passe dans l'organisme quand on a ça.
Quand on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, l'organisme va se mettre au ralenti. Donc on va être plus fatigué, on va avoir du mal à se concentrer, à avoir de l'attention, on peut prendre du poids. Le transit aussi est ralenti, le cœur a tendance à battre plus lentement. On a souvent froid, on est frileux. Et donc, c'est comme si on se mettait un peu en état d'hibernation. On a besoin de plus dormir. Donc ça, c'est l'hypothyroïdie. Et comment on fait le diagnostic? En fait, on fait une prise de sang et on se rend compte que l'hormone qui normalement commande la thyroïde, qui s'appelle la TSH, est très haute. Pourquoi? Parce qu'à la base du cerveau, on a une petite glande qui s'appelle l'hypophyse, dont le rôle est de contrôler toutes les glandes du corps. Et donc, elle va recevoir des signaux des organes. Et quand les organes envoient des signaux « Ah là, on manque d'hormones, il n'y en a pas assez », hop, elle va vouloir stimuler la thyroïde. Et c'est pour ça qu'on a des taux de TSH qui sont hauts.
Docteur Mohamed?
Et est-ce qu'on sait pourquoi justement cette thyroïde tout d'un coup va se mettre à moins bien marcher? Elles sont les causes dominées par des causes, le système immunitaire et les maladies auto-immunes, ou il y a d'autres explications?
Alors c'est ça. En fait, la plupart du temps, c'est une atteinte auto-immune. Qu'est-ce que c'est? C'est le système immunitaire. Normalement, il est là pour nous combattre contre les infections. On en entend beaucoup parler actuellement. Et bien là, en fait, le système immunitaire, il va se retourner contre soi-même. Et l'organe contre lequel il se retourne le plus souvent, c'est la thyroïde.
C'est ce qu'on appelle le Hashimoto, là, c'est ça?
Le Hashimoto, oui, la thyroïdite auto-immune. Alors le docteur Hashimoto, c'est le docteur japonais
qui a découvert ça.
Qui a découvert cette maladie et qui l'a décrite. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça.
Et c'était une maladie de l'adulte? adultes, hein, l'hypothyroïdie, il n'y a pas d'enfants qui ont ça, a priori, alors, sauf ce que vous avez dit tout
voilà,
à l'heure.
Très rare chez l'enfant, ça peut arriver chez l'adolescent, voilà, le plus souvent vers la cinquantaine, avec un pic d'apparition chez la femme jeune vers 20 ans également.
Jimmy ?
Et le problème, c'est que souvent, le diagnostic peut être compliqué car les symptômes ne sont absolument pas spécifiques. Mais est-ce qu'il y en a quelques-uns qu'on peut retenir, qui sont un peu communs et qui devraient faire aux gens au moins une petite prise de sang, comme vous avez mentionné juste avant ?
Oui, alors c'est vrai que c'est toute la difficulté, c'est que parfois on est très fatigué. Qui n'est pas fatigué en ce moment, a du mal à perdre du poids, etc. Il n'y a pas un symptôme qui va attirer. Peut-être la seule chose à laquelle il faut penser, c'est si dans votre famille, vous avez déjà des maladies de la thyroïde et qu'en plus, vous avez ces symptômes qui apparaissent alors qu'il n'y a pas d'autre raison et que même en vous étant reposé, en revenant, en rentrant de vacances, toujours le matin, vous avez du mal à commencer la journée. Là, ça peut être le moment d'aller voir votre médecin et de vérifier
Parce
cela.
Que l'hérédité, c'est un vrai facteur de risque. On a eu une question justement sur Twitter d'une auditrice qui dit « Moi, mes sœurs, mes deux sœurs, on a des problèmes, pas les mêmes d'ailleurs, mais on a des problèmes de thyroïde dans la famille. » C'est souvent familial comme ça. Hein.
Très souvent, quasiment systématiquement, quand je vois un nouveau patient, il me dit « Mais en fait, j'ai ma mère, ma sœur, mon... » Ça peut arriver aussi chez les hommes, bien sûr, mon père qui a un problème de thyroïde.
Alors, on va pas revenir sur la polémique. Il y a un traitement qu'on donne beaucoup aux patients qui ont ce problème-là, le Levothyrox. On va pas revenir sur la polémique qu'il y a eu il y a quelques temps, parce qu'on a changé un peu la formulation de ce médicament. Pour vous, ça reste le médicament de référence dans le traitement de cette maladie ?
Oui, alors la lévothyroxine, ce sont des hormones thyroïdiennes. On a la chance d'avoir un traitement qui en fait va remplacer la thyroïde qui ne peut pas fonctionner. On n'arrive pas à guérir la thyroïde, on ne dispose pas de médicaments qui peuvent empêcher le système immunitaire d'attaquer la thyroïde. Donc on la remplace et l'avantage de ce médicament, c'est qu'il peut être pris à très long terme. Alors il y a eu des problèmes parce qu'il y a eu des patients qui ont mal toléré le changement d'excipient.
Voilà, c'est ça, changement de formulation exactement.
Voilà, pour un certain nombre de patients, ça a été très difficile. Et heureusement, on a maintenant à notre disposition d'autres marques avec différents excipients. Et grâce à ce panel, la plupart des patients arrivent maintenant à retrouver un nouvel équilibre. Et j'en profite pour préciser que l'ancienne formule du médicament, actuellement commercialisée en France sous le nom de Levothyrox, la production va être arrêtée en septembre. Et donc j'invite les patients à aller voir leur médecin pour voir comment les aider éventuellement à trouver un autre médicament qui va pouvoir leur correspondre, avec bien sûr un accompagnement pour ceux qui ont beaucoup souffert à ce moment-là.
Bien sûr. Alors on va passer à l'autre problème qui est donc l'hyperactivité de la thyroïde. Là c'est l'hyperthyroïdie. Là c'est quoi les symptômes ?
Alors c'est tout l'inverse. C'est tout d'un coup tout s'accélère. Vous vous retrouvez à, un peu comme une pile électrique. Je deviens très irritable, je me mets à perdre du poids, j'ai tout le temps chaud, j'ai la diarrhée et j'ai des palpitations. Peut-être que c'est le symptôme qui revient le plus souvent, la sensation que le cœur bat très vite dans la poitrine. Des tremblements. Là, il faut attirer, il faut avoir l'attention attirée, il faut aller consulter son médecin aussi.
Et ça, pareil, c'est une prise de sang, hein, c'est ça ?
C'est une prise de sang. Et là, la TSH, elle va être très basse. L'hormone qui contrôle la thyroïde va essayer de bloquer la thyroïde en lui disant « Stop, arrête-toi, arrête de fonctionner ». Et c'est pour ça qu'elle est très basse.
Jimmy ?
Et justement, vous avez un petit peu annoncé la chose, c'est que il faut ralentir cette thyroïde qui marche trop rapidement. Et le traitement consiste en quoi ? C'est des médicaments un peu particuliers ?
Alors, tout dépend de la cause. On va dire qu'il y a deux grandes causes. La première cause, c'est aussi une maladie auto-immune. Celle-là, on l'appelle la maladie de Basedow, parce que c'est le docteur Basedow qui l'a décrite. La thyroïde est souvent gonflée. Quand on fait une échographie, on voit qu'il y a beaucoup de sang, elle est très inflammatoire. Et puis, on peut aussi avoir les yeux qui sont atteints avec des yeux exorbités. Et donc, dans ces cas-là, on donne des médicaments qui vont bloquer la thyroïde. Et on les donne pendant plusieurs mois, pendant 12 mois, 18 mois. Et souvent, à l'arrêt du traitement, la maladie est terminée. Et puis, il y a certains cas où la maladie, malheureusement, elle revient. Ou alors, il y a d'autres causes. Par exemple, c'est un nodule cette fois-ci. Il y a certains nodules qui peuvent se mettre à trop fonctionner. Et à ce moment-là, on a d'autres traitements qu'on utilise dans le but de détruire la thyroïde. Soit on opère, on enlève la thyroïde, soit on va la brûler avec de l'iode radioactive, l'iode 131.
D'accord. Et ces problèmes, d'ailleurs, que ce soit hypo ou hyperthyroïdie, il faut quand même dire, c'est vrai, hein, parce que les patients qui l'ont vécu le savent, c'est pas facile parfois de trouver le bon traitement, enfin, c'est-à-dire le bon dosage. C'est des médicaments très fins, hein, donc parfois vous mettez du temps avant de trouver le dosage qui correspond bien aux patients. Hein.
Oui, souvent quand on apprend les études de médecine, on dit, eh bien, il faut regarder les prises de sang et on adapte en fonction des prises de sang. Oui, il faut regarder les prises de sang, mais il faut aussi savoir bien interroger et examiner son patient pour pouvoir ajuster le traitement au mieux. Parce que pour certains, l'équilibre va être un peu difficile. C'est ce qu'on appelle des médicaments à faible marge thérapeutique. Le moindre petit changement peut entraîner des modifications importantes de ressenti chez le patient. Donc il faut toujours rester attentif à ça. Et c'est vraiment un dialogue entre le patient, le médecin et les résultats qui va permettre de mieux adapter le traitement.
Une dernière question, Jimmy ?
Oui, j'ai l'impression de voir de plus en plus de problèmes de thyroïde. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est en augmentation ? Est-ce qu'on aurait une explication à cette augmentation ?
Oui, il y en a de plus en plus. Alors, il y a deux explications. La première, c'est qu'on les dépiste très facilement. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des prises de sang faciles à faire, qui ne sont pas très coûteuses. Les médecins sont bien formés sur le fait qu'il y a beaucoup de problèmes de thyroïde, donc ils ont tendance à le dépister beaucoup. Après, il y a une interrogation à savoir est-ce qu'ils augmentent vraiment, et c'est aussi peut-être à cause de certains perturbateurs endocriniens qui pourraient atteindre la thyroïde ou en tout cas entraîner une augmentation de l'auto-immunité envers la thyroïde. Donc il y a encore beaucoup de recherches, c'est des vraies interrogations qu'on a là-dessus.
Merci beaucoup docteur Lecornet-Sokol d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on sait tout ce qu'il y a besoin de savoir sur cette glande et ses dysfonctionnements. Pour ceux qui en voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre et si c'était hormonale chez Hachette Bien-être, un ouvrage que vous avez écrit avec Caroline Balmache-Chaminadour. Merci encore. Europe 1. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de l'extinction de voix. Ça peut tous nous arriver un jour, après un concert par exemple. Mais que se passe-t-il sur nos cordes vocales, dans notre gorge précisément à ce moment-là? Et comment régler ça vite? On vous détaillera tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui on parle de l'extinction de voix, notre ennemi juré ici à la radio évidemment. Savez-vous ce qu'il se passe dans votre gorge quand la voix vient à vous manquer? Quelles sont les causes et surtout comment régler ce problème? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Une extinction de voix, c'est quand la voix disparaît.
Une voix qui est étouffée avec des douleurs au niveau de la gorge et en effet une voix ou qui se casse ou qui se brise, voire qui est carrément complètement quelqu'un qui est aphone.
Une inflammation des cordes vocales.
Ça fait d'être aphone, puis avoir de voix. On a parlé un peu trop fort, je pense que les cordes vocales elles se paralysent un peu en criant sur le dance floor et hop, c'est parti, plus de voix pendant 3 jours.
Je pense qu'il y a peut-être aussi les problématiques sur des consommations d'alcool, peut-être la consommation de cigarettes ou de produits qui peuvent altérer en fait les cordes vocales et rendre cette voix cassée.
Pour moi, ça passe tout seul. Il y a peut-être des médicaments qui existent, mais pour moi, c'est des choses qui la voix revient toute seule après avec le temps.
Du thé au miel, de l'eau chaude avec du miel. Il y a des médicaments aussi peut-être naturels, des accompagnements naturels et puis peut-être des médicaments dans le cadre d'une extinction de voix qui serait pérenne.
Bah, on se taille, on prend du miel.
Bon, on prend du miel, on va voir si Jimmy nous le conseille. Alors Jimmy, on va reprendre du début. D'abord, perdre sa voix ou même être très enroué, ça correspond à quoi physiologiquement? Il se passe quoi dans notre gorge en fait?
Alors, moi je savais que j'aime bien les termes un peu compliqués, ouais, on appelle ça la dysphonie. La dysphonie, c'est lorsque la voix est enrouée, donc l'enrouement.
D'ailleurs, la vôtre, elle est pas terrible aujourd'hui. Hein,
ouais, aujourd'hui, je suis pas, oui, effectivement, un petit rhume me guette. Donc elle peut être rauque ou éraillée, ou enfin, elle peut être carrément éteinte. C'est le fameux casser la voix de Patrick Bruel, c'est lorsque l'extinction de voix est complète. Alors, ce trouble, il peut être lié au fait que une ou deux des cordes vocales qu'on trouve dans ce larynx sont touchées, ou encore si le larynx est inflammé, l'inflammation dont on parlera après, la laryngite.
Justement, le larynx, c'est où? Parce que parfois, on fait pas la différence. Le pharynx, le larynx, il sert à quoi celui-là?
Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, le larynx, il est situé donc dans le cou et il est situé entre le pharynx, qui est le fond de la gorge, et le haut de la trachée. La trachée, c'est ce tuyau qui sert à respirer. C'est un organe qui contient du cartilage en forme de tube et il contient justement ces cordes vocales qui servent à produire le son de la voix lorsqu'on expire. Et enfin, on a dans ce larynx la possibilité d'avoir l'épiglotte qui se ferme lorsque vous déglutissez pour éviter de faire des fausses routes. Donc ça sert aussi à passer l'air des poumons et à vous protéger lorsque vous avalez.
Alors quand on est enroué, quand on a une extinction de voix, je l'ai bien dit cette fois, c'est bon, je crois qu'en fait on distingue deux types en pratique, hein, les formes aiguës et chroniques. Alors on va parler surtout de l'aigu aujourd'hui, le chronique on va laisser tomber, on en parlera une autre fois. C'est quoi une extinction de voix aiguë?
Exactement. Alors, vous avez aussi un petit peu de mal comme moi, mais l'extinction de voix aiguë, c'est la laryngite. Alors, c'est ce qui est le plus fréquent et c'est bénin. La voix est éteinte, enrouée durant quelques jours et la cause la plus fréquente, c'est une cause virale ORL. Parfois, on peut avoir certaines causes bactériennes, mais ça reste beaucoup plus rare. Et donc, vous avez une inflammation qui est transitoire des cordes vocales qui fait que vous allez tousser, avoir une voix un peu rauque, un peu comme un chien qui aboie ou un phoque. Ça touche souvent les enfants. La toux est souvent nocturne associée et parfois, lorsque vous avez été intubé après une anesthésie général, il peut y avoir une petite lésion des cordes vocales, une irritation qui fait que bah, vous avez une petite laryngite mais qui est transitoire.
Alors Jimmy, on va pas, pour terminer quand même, on va parler du traitement puisque bon, les gens qui ont un problème de voix aujourd'hui veulent savoir comment on s'en sort. Donc quand c'est bénin, hein, quand c'est la petite crise d'extinction de voix aiguë, on fait quoi Jimmy à la maison?
Alors une auditrice l'avait dit, il faut rester au repos, donc on laisse la voix tranquille, on évite de parler seulement si on doit absolument le faire. Chez les enfants, s'il est 3h du matin, qu'il tousse et qu'il a la voix rauque, on le met dans la salle de bain, on ouvre le robinet d'eau chaude pour qu'il respire les vapeurs d'eau chaude et ça lui permet de casser cette toux. Parfois le médecin a recours à un petit traitement à base de corticoïdes durant 2-3 jours mais sur prescription médicale. Essayez de garder votre gorge humide, on boit beaucoup, du thé, du miel, du citron, pourquoi pas, humidifiez votre logement et dans l'immense majorité des cas, il faut juste patienter et tout rentre dans l'ordre.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, c'est la sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de l'androgynie. C'est quoi précisément quelqu'un d'androgyne et cela a-t-il forcément un impact sur la vie sexuelle? Catherine fera le point. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio à présent, c'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous?
Je vais bien, je vous remercie. Et vous?
Mais très bien, Jimmy, vous allez bien? Vous baillez?
Non, 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 tout va bien.
C'est bien. Aujourd'hui, on n'a pas de questions d'auditeurs, Catherine, puisque nous allons parler d'androgynie. Alors pourquoi? Europe 1 est partenaire du film Miss de Ruben Alves, avec Alexandre Véter et notamment Isabelle Nanty, qui sont aujourd'hui en salle. Catherine, d'abord, l'androgynie, donc c'est le grand thème de ce film. C'est quoi l'androgynie?
Eh bien, c'est quelqu'un dont l'apparence fait que l'on peine à savoir s'il est garçon ou fille. Donc ça n'est qu'une histoire d'apparence, c'est-à-dire que les traits ne permettent pas de bien définir son genre.
C'est récent ce phénomène, parce que c'est vrai qu'on se souvient de David Bowie ou Mick Jagger dans les années 70, qui étaient à la fois homme, femme, physiquement, ou est-ce que ça a toujours existé, ou est-ce que c'est vraiment plus récent que ça?
Non, ça c'est pas une histoire culturelle, c'est vraiment une histoire de corps et de traits, et après évidemment cultivé ou non, donc il y a des époques où, effectivement, on a joué, notamment dans les années 70, où on jouait, bien sûr, à les glissements de terrain de son genre, ce qui fait que les hommes avaient les cheveux longs, les femmes ne mettaient pas leurs seins en avant, enlevaient des soutiens-gorge comme pour nier leur genre féminin. Donc voilà, on peut jouer avec ça, mais sinon, c'est une question, tout simplement, de structure génétique.
Dis-moi.
Et ça n'a rien à voir avec l'hermaphrodisme, en revanche?
Oui, où là, par contre, c'est une question de genre au sens de reproduction qui n'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, effectivement, il y a le sexe féminin ou le sexe masculin. Les deux sont présents potentiellement, ou l'un ne s'est pas complètement développé et l'autre est encore un peu présent, etc. Rien à voir. Mm-hmm. Là, on est dans l'apparence. Et d'ailleurs, ça vient du grec andros, qui veut dire homme au sens de apparence, genre, et gyné, femme.
Ah voilà. Oui, donc les deux...
C'est vraiment une histoire de look.
Mais justement, si c'est une histoire de look, est-ce que ça a un impact éventuellement sur la sexualité de la personne qui est androgyne?
Bah, évidemment que quand on se construit avec l'idée que l'on se fait de soi et l'idée que l'on renvoie dans le regard des autres. Donc moi, si je me sens profondément féminine alors que les apparences extérieures laissent à penser quelque chose de très masculin, je peux évidemment être polluée par ce regard et douter de mon ressenti.
Mais voilà, un homme androgyne n'est pas forcément homosexuel?
Pas du tout, pas nécessairement. Il peut être complètement hétérosexuel. C'est encore une fois, il faut bien comprendre que notre élan sexuel est un élan qui part de notre réalité physiologique, d'une part, de ce que nous renvoie la société, de ce que nous sommes et des enjeux de ce que nous sommes, et des possibilités ou non. Et puis après, des enjeux relationnels avec les uns et les autres, et de l'intérêt ou de l'opportunité de faire prévaloir un élan ou un autre.
Jimmy ?
Peut-on être à la fois viril
viril et androgyne. Est-ce qu'on a l'impression parfois que ça peut être opposé ou est-ce que c'est une idée reçue?
C'est-à-dire que dans l'absolu, oui. On peut être à la fois et l'un et l'autre. Sauf que, évidemment, quand on est androgyne, on n'est pas perçu comme étant viril. Donc, comme on n'est pas perçu comme étant viril, on a tendance à désinvestir ce côté-là pour investir ce que les autres semblent voir de soi. Et c'est là que, du coup, on se retrouve dans, effectivement, une absence de virilité par une absence dans le corps d'une affirmation de cette virilité.
Et est-ce que c'est facile de trouver l'amour quand on est androgyne? Alors, je ne sais pas si vous en avez souvent croisé en consultation des personnes androgynes. Il ne faut pas forcément trouver une autre personne androgyne. C'est pas facile, non, j'imagine, de démarrer peut-être sa sexualité quand on ne ressemble pas forcément physiquement à ce qu'on a l'impression d'être à l'intérieur, je ne sais pas.
Non, en fait, c'est les choses, vous savez, là, on se pose la question parce qu'on parle d'androgynie, mais même dans des couples très identifiés hommes-femmes, avec les caractéristiques bien nette, eh bien ça ne veut pas pour autant dire que l'homme joue complètement le rôle masculin et la femme complètement le rôle féminin. Donc en fait, il y a toujours chaussure à son pied, c'est-à-dire qu'il y a toujours, même pour l'androgyne, quelqu'un qui va trouver dans son apparence un peu ambivalente, l'occasion formidable de jouer sa propre ambivalence personnelle, quand bien même, physiquement, il n'y en aurait pas. Donc en fait, ça ne pose pas de problème. Nous avons tous des gens qui nous correspondent et des gens qui profitent de ce que nous sommes, de ce que nous mettons en avant pour venir justement faire écho à leurs propres mécanismes, à leur propre histoire, à leurs propres enjeux et à leurs propres élans.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans Sans Rendez-vous, une émission autour du cancer du côlon. À l'occasion de Mars Bleu, le mois de sensibilisation autour de cette maladie, nous verrons que c'est un cancer qui peut être guéri grâce à un dépistage précoce. On en parle demain, mais tout de suite on retrouve Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Ça vous dirait qu'on danse tous les deux un fiévreux tango? On reçoit aujourd'hui Chaïm, la reine de Danse avec les Stars, qui devient actrice dans Profilage demain soir sur TF1. 2 heures en compagnie de Chaïm, on ne devrait pas pleurer.
Beau programme, merci Mathieu, bonne émission et vous, restez sur Europe 1.